Bonjour. Jean-Yves l'a dit, nous pouvons être reconnaissants pour tout ce que Dieu nous a laissé dans sa parole. Et sa parole contient la vérité, sa parole est la vérité. Nous le croyons, Dieu nous le démontre par les qualités intrinsèques à cette parole, à la Bible. Mais ce qu'il y a de particulier dans la Bible, c'est que ce n'est pas un catalogue. Ce n'est pas non plus un dictionnaire de théologie où nous aurions une foule de définitions rangées par ordre alphabétique, non. La Bible nous révèle la vérité à propos de Dieu, à propos de son salut, au travers de l'histoire. Dieu est un histoire qui nous révèle comment est-ce qu'il en est à l'origine, comment est-ce qu'il est souverain sur cette histoire et comment est-ce qu'il vient à notre rencontre et comment est-ce qu'il nous sauve et à ce à quoi est-ce qu'il nous destine aussi. Dieu se révèle par l'histoire, par son histoire. Il en est l'auteur. Et vu que nous sommes en ce moment, au printemps, certes, qu'il fait beau, mais pour certains d'entre nous, c'est une période aussi un peu plus compliquée, puisque c'est des révisions pour des partiels ou des soutenances qui arrivent, eh bien, je vous propose ce matin que nous fassions tous une révision. Nous allons tous réviser à propos de trois grandes vérités que nous devons connaître, sur lesquelles nous devons être absolument clairs par rapport à notre salut. Et nous avons de la chance, puisqu'il y a un texte qui nous rappelle trois de ces grandes vérités dans les Écritures. C'est un texte de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Et Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, au début du chapitre 2, que nous allons lire ensemble, rappelle trois grandes vérités à propos du salut. Ces trois grandes vérités sont celles-ci. De quoi Dieu m'a sauvé? C'est important de savoir et de pouvoir répondre à cela. Ensuite, par quoi Dieu m'a sauvé? Et enfin, pour quoi Dieu m'a sauvé? Et c'est ces trois vérités que nous allons réviser ensemble ce matin, et je vous invite à prendre avec moi le chapitre 2, et nous allons voir cette première vérité ensemble, de quoi Dieu m'a sauvé, en lisant les quatre premiers versets. Paul dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. De quoi Dieu m'a sauvé? Paul, dans ses quatre premiers versets, va tenter d'expliquer à ses lecteurs de quoi ils sont sauvés. Paul utilise de façon alternative « nous » et puis « vous ». C'est-à-dire que Paul s'adresse à son époque dans un monde qui, pour tout le monde, est divisé en deux catégories. Il y a, d'un côté, les Juifs, c'est nous dont Paul fait partie, et puis d'un côté, les païens, c'est-à-dire tous les non-juifs, absolument tous les peuples de la terre qui sont des païens dans la vision du monde juive de l'époque. Et donc Paul veut rappeler que vous, comme nous, voici ce que nous étions. C'est-à-dire Paul rappelle une condition universelle. Cette condition est que nous sommes pécheurs. Alors, le groupe de dames dont je fais officiellement partie depuis quelques semaines maintenant. Ne rigolez pas, c'est super d'y aller. Avec le groupe de dames, nous avons révisé ce que la Bible nous dit par rapport au péché. Donc, si vous avez des questions maintenant théologiques, il faut vous tourner vers le groupe de dames puisqu'elles sont incollables. Est-ce que vous vous souvenez ce que nous avons dit par rapport au péché, mesdames? Il y a trois facettes au problème du péché. D'abord, le péché est ce que nous sommes, notre identité, c'est inscrit sur notre passeport. Nous sommes coupables, c'est ce qu'on appelle la culpabilité que nous avons héritée en Adam, en tant qu'humain, avant même que nous fassions quoi que ce soit. Nous sommes pécheurs, mais le péché est aussi une réalité qui vit dans notre cœur. Le péché est en nous. Ce n'est pas simplement un état, c'est une réalité qui vit dans notre cœur. Et puis enfin, le péché, puisqu'il vit aussi dans notre cœur, se manifeste dans nos pensées, se manifeste dans nos paroles et dans nos actes, par la loi de Dieu que nous transgressons et par la loi de Dieu à laquelle nous oublions, entre guillemets, d'obéir. Nous ne faisons pas ce que nous devrions faire, mais nous faisons ce que nous ne devons pas faire. Voici les trois facettes un petit peu du péché, cette réalité dans laquelle nous sommes enfermés. Et Paul veut expliquer à son auditoire que de cette réalité découlent plusieurs choses. Premièrement, Paul leur dit « Vous étiez morts par vos péchés. » Dieu nous a sauvés de la mort. Notez bien, Paul ne dit pas « Vous étiez mauvais » parce que vous étiez pécheur. Non, il dit « Vous étiez mort ». Alors, que veut-il dire par là ? Paul veut souligner un lien qu'il y a entre le péché et notre état, un lien qui n'est pas physique, il ne parle pas là de la mort physique, il parle de la mort spirituelle. Il fait un lien donc théologique, où il veut expliquer la logique de Dieu qui nous conduit à cette réalité de mort spirituelle devant lui. Paul explique la conséquence du péché. Dieu nous a créés pour être en communion avec lui. Il est le créateur, l'auteur de notre vie. Et nous avons besoin, pour avoir cette vie-là, d'être en communion avec lui. Mais le péché a rompu cette communion et nous sépare de lui. Et c'est un petit peu comme un appareil électrique, vous le débranchez de la prise, il n'est plus en lien avec la source de courant, la source de vie. Et donc, il s'éteint. Et le péché engendre cette séparation-là avec Dieu et nous rend morts à ses yeux. Et Dieu, dans sa bonté, a voulu que nous ayons conscience de cet état de la relation en maudissant l'homme, en le rendant mortel aussi physiquement, pour ne pas le laisser dans cet état de façon éternelle de séparation avec lui et lui rappeler la gravité, la dangerosité de sa vie, pour l'humilier, lui rappeler qu'il a besoin de lui, qu'il a besoin d'être sauvé de cette mort. Première chose que Paul veut rappeler, c'est que nous sommes spirituellement morts. Le problème des hommes, de nous tous, n'est pas d'être plus ou moins bons ou mauvais, d'être sur une échelle où on essaierait d'être de moins en moins mauvais toute sa vie. Non. Paul dit que ce soit les juifs, que ce soit les non-juifs, nous étions tous morts. L'état est dramatique. Un mort ne peut rien faire pour sortir de sa situation. Un mort ne peut pas retrouver la vie par lui-même. Un mort a besoin d'un miracle. Il a besoin que quelqu'un intervienne pour le sauver de sa condition dramatique. Et je trouve que dans cette alternance entre le « nous » et le « vous » qu'utilise Paul dans ce texte, et dans tout l'épître d'ailleurs aux Éphésiens, nous pouvons trouver aussi une certaine dimension, une certaine application pour nous, les chrétiens. Certaines personnes qui fréquentent l'Église depuis toujours, qui ont grandi dans un contexte d'une famille chrétienne, se sont probablement beaucoup plus préservées de faire beaucoup de choses mal que des personnes qui n'ont grandi sans aucune éducation chrétienne. Parce que nous croyons que Dieu, au travers de sa parole, nous garde, nous préserve aussi de faire beaucoup de choses mal. Et il m'est arrivé personnellement, vous connaissez mon parcours, la plupart d'entre vous, vous savez que moi je suis parti très loin, j'ai fait beaucoup de grosses bêtises et pour moi cette notion d'être perdu et d'être mort, elle m'a sauté au visage un jour dans ma vie. Mais pour certains d'entre nous qui sommes restés proches des commandements de Dieu, plus ou moins toute notre vie, qui avons obéi à ça, nous avons du mal à réaliser notre condition devant Dieu puisque nous l'évaluons par rapport à ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait. Mais tous les actes que nous pouvons commettre ne sont que les symptômes, la partie immergée de l'iceberg, ce que l'on peut observer dans notre vie. Ce ne sont pas les racines. Les causes de toutes ces choses, c'est que nous sommes morts devant Dieu. Peu importe notre vie, tout ce que nous avons fait, nous partageons tous la même condition. Et un enfant de chrétien qui aurait fait peu de choses mal dans sa vie, ou le pire des bandits sur la terre, partage la même condition devant Dieu. Nous sommes morts sans lui. Nous sommes morts à ses yeux. Deuxième condition dont Paul aborde est celle de l'esclavage. Paul nous dit que nous sommes esclaves dans ce texte, esclaves de trois choses, trois ennemis dans notre vie qui nous maintiennent dans une condition de servitude. La première que Paul décrit dans notre texte, c'est le monde. Nous sommes esclaves du monde. Alors Paul, là encore, ne parle pas du monde matériel dans lequel nous vivons, hein. Il ne parle pas de l'oxygène, des murs et de toutes ces choses-là, non. Il parle de l'ensemble des valeurs, des systèmes de pensée que nous avons inconscientes, qui sont le fruit de nos réflexions, l'ensemble des valeurs d'une société, ou plutôt d'une humanité sans Dieu. Une humanité qui a rejeté Dieu de sa réalité et qui s'est construit sa propre vision du monde. Et elle peut prendre cette vision du monde plusieurs formes, que ce soit par exemple le matérialisme, que ce soit l'hédonisme, cette course au plaisir instantané, au bonheur et à la liberté, tout de suite, maintenant, où le bien et le mal sont jugés en fonction de valeurs simplement sociales, de contexte actuel, du siècle dans lequel nous vivons, etc. Enfin voilà, il y a dans notre monde, dans toutes les sociétés, plein de systèmes de valeurs que nous pouvons tous posséder, qu'elles soient conscientes ou non. Nous avions eu un séminaire sur la question des visions du monde où Mathieu Giralt a développé cette chose-là, cette problématique-là, pendant tout un séminaire, donc je vous renvoie à cela si vous voulez développer, mais j'ai juste un exemple. Nous faisons la préparation au mariage de plusieurs couples dans l'église, Marion et moi, et dans nos conversations, nous avons vu, autant dans notre expérience à nous que dans la leur, par exemple, cette notion de vouloir garder et vivre la sexualité dans le cadre du mariage. Si vous avez expliqué ça, cette volonté-là, à vos amis, que ce soit à la fac ou au travail, au collège ou quoi, on passe pour un fou, littéralement. Ça fait totalement non-sens. C'est pas logique. C'est se priver de plaisir. Pourquoi se priver de tous ces plaisirs-là? Ce sont des bondieuseries. On est enfermé dans un système obscurantiste et on ne peut même pas envisager que si un Dieu existe et qu'il a voulu ça, c'est pour nous faire vivre quelque chose de meilleur. Pourquoi? Parce que nous sommes esclaves de notre vision du monde, esclaves des valeurs qui nous gouvernent, qui nous dirigent. Et ces valeurs-là, ces visions-là, ces principes élémentaires-là, c'est un autre mot que Paul utilise dans l'Épître aux Galates, notamment pour parler de la même chose, ces principes élémentaires-là nous maintiennent dans une servitude et nous empêchent de vivre et de voir la réalité telle que Dieu veut qu'on la voie. Alors nous pourrions dire jusqu'à présent que si nous sommes simplement esclaves du monde, il y a moyen de lutter contre cela. Mais Paul dit que nous sommes esclaves d'une deuxième chose, nous sommes esclaves de Satan. Derrière ce monde, derrière ces systèmes de pensée, il y a l'œuvre du père du mensonge, de l'auteur du mensonge, de celui qui influence, de celui qui ne se relâche jamais pour encourager l'humanité à se rebeller contre Dieu, à exclure Dieu de sa vie. Satan est à l'œuvre. Et Paul veut qu'on se le rappelle. Et il l'appelle le prince de la puissance de l'air. Et c'est une expression qui est magnifique, puisque dans l'Épître aux Éphésiens, Paul en utilise une autre pour parler de Christ et parler de notre état avec Christ. Il nous dit que nous sommes dans les lieux célestes, que Christ règne au-dessus de toute autorité, de toute domination. Il règne sur la terre entière et dans les cieux. Et les cieux, il ne faut pas s'attendre Enfin, ne prenez jamais une fusée, partez derrière Mars et vous aurez un panneau « Bienvenue dans les lieux célestes » et ici un portail doré avec Saint-Pierre qui est devant et vous rentrez dans les lieux célestes. Non. Paul parle de la dimension spirituelle éternelle de notre monde, un monde qui n'est pas matériel mais qui est aussi spirituel. Et dans ce monde-là spirituel, Satan, lui, est quoi? Il est pas roi, il est prince. Et il est prince de quoi? De toute la création, non, mais de l'air. Une autorité qu'il a usurpée, une autorité qu'il ne mérite pas, mais une autorité qui n'est pas souveraine, une autorité qui est réelle, mais une autorité qui n'est pas totale. Mais il est néanmoins prince. Il règne et il maintient l'humanité loin de Dieu. Il la pousse et il l'encourage. Et il maltraite l'humanité pour ce qu'elle est, création d'un Dieu parfait, pour détourner cette humanité et la retourner contre son Créateur. Et dans les Écritures, Paul nous dit que Satan a deux grandes techniques, deux grandes stratégies pour nous détourner de Dieu. La première, et c'est Pierre qui en parle, excusez-moi, ce n'est pas Paul, on pourrait dire que c'est l'attaque frontale que Satan utilise, c'est l'épreuve. Pierre dit ceci en 1 Pierre, au chapitre 5, verset 8. « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Voilà. Là, on voit bien l'image que veut utiliser Pierre. Imaginez-vous rencontrer un lion, hein, ça ne fait pas plaisir. La deuxième, qui est tout aussi dangereuse, et dans notre contexte à nous, dans notre société à nous, qui est encore plus pernicieuse, plus sournoise, c'est l'attaque par derrière, l'attaque sournoise. Paul dit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière pour nous détourner. Il revêt, c'est un loup qui met une peau de brebis sur ses épaules. C'est un démon qui veut mettre le manteau d'un ange et pour nous attirer vers des choses qui seraient soi-disant bonnes pour nous. J'ai un ami qui connaît bien une mission en Inde, qui est la mission Amparte. Et vous savez, quand nous parlons de l'Église persécutée, nous avons une zone bien définie avec des pays qui sont classés par dangerosité pour les chrétiens. Et en réalité, quand nous faisons ce classement-là, nous parlons plutôt de l'attaque frontale qui est envers les chrétiens. Puisque l'attaque de Satan, elle, est envers tout le peuple de Dieu. Il ne choisit pas certaines personnes et d'autres non. Mais il a plusieurs stratégies. Et quand mon ami est parti en Inde pour rencontrer ses missionnaires, quand il a vu leur réalité, certains chrétiens qui se faisaient tuer, qui se faisaient voler tous leurs biens, qui se retrouvaient à la rue, il a été profondément choqué, attristé par ce qu'il a vu. Et il a eu la chance de pouvoir inviter ses amis indiens en France. Et quand ils ont débarqué à l'aéroport de Paris, qu'ils se sont baladés dans les rues parisiennes, à la fin de la journée, ils ont confié à mon ami, mais comment vous faites, vous chrétiens, pour vivre fidèlement à Dieu dans ce monde-là? Toute la sexualité omniprésente, comment vous faites pour résister à ça? Comment vous faites pour résister à tout ce luxe, à toutes ces choses qui nous attiraient, nous, en deux secondes, loin de Dieu? Comment vous faites? Satan travaille de deux façons, de façon frontale et aussi par derrière pour nous détourner de Dieu et nous devons sortir de cette illusion d'un monde qui est neutre, d'un monde qui n'est pas entremêlé de choses qui demeurent à l'image de Dieu, mais aussi de pièges pour nous, où Satan utilise ce que Dieu a créé pour nous détourner et nous éloigner de Dieu. Nous pourrions dire à ce stade encore que un petit peu rejoindre la pensée humaniste de Rousseau, par exemple, qui dit que finalement l'homme est bon, mais que c'est la société qui le corrompt. Le monde, Satan, voilà, ce sont des éléments extérieurs. Mais non, Paul, là, va donner un élément encore plus tragique pour nous. Il dit que nous sommes esclaves de notre propre chair. Paul dit que nous sommes esclaves de nous-mêmes. Quoi de pire ? Quoi de pire ? Être esclave de soi-même. Paul dit que le ver est dans la pomme. Pas besoin de chercher le problème à l'extérieur. Nous-mêmes, nous sommes corrompus et nous sommes nos propres esclavagistes. Et c'est dramatique parce que se rencontre dans notre problématique du péché, notre condition de personne morte, notre condition d'esclave à ce monde, d'esclaves de Satan et d'esclaves de nous-mêmes. Il y a des pressions extérieures qui nous encouragent à demeurer loin de Dieu, mais il y a aussi une pression intérieure. C'est le péché qui vit en nous. Nous sommes esclaves de nous-mêmes, de notre propre chair. Un mort ne peut revenir à la vie par lui-même. Un esclave ne peut parvenir à la liberté par lui-même. Dans les deux cas, il y a besoin d'une intervention extérieure, d'un miracle. Mais Paul veut encore mettre un coup de marteau. Il nous rappelle autre chose. Il nous rappelle que nous avons besoin d'être délivrés de la colère de Dieu. Nous sommes destinés à être des enfants de colère, des enfants qui sont destinés à subir sa colère. John Stott donne une définition de la colère de Dieu que je trouve excellente. Il dit « La colère de Dieu est l'hostilité personnelle, juste et constante de Dieu à l'égard du mal, son refus déterminé de toute compromission avec lui et sa résolution de le condamner. » La colère de Dieu n'est pas une vengeance. Sa colère n'est pas la nôtre, n'est pas une colère humaine. C'est une colère qui est divine, qui est toujours juste, qui est toujours justifiée, qui est constante puisqu'elle est totalement nécessaire et conforme à sa sainteté. Parce que l'homme a été créé par Dieu et pour être un adorateur de Dieu, et que l'homme se rebelle contre Dieu et vit pour lui, il subit la juste colère de Dieu. Et dans la Bible, un synonyme du jour du jugement, c'est le jour de la colère. Dans son jugement, quand Dieu jugera le monde, il déversera toute sa colère sur le monde. Et Jean-Yves l'a rappelé tout à l'heure, il déversera sa colère sur ceux qui l'auront rejeté de manière à ce que sa colère soit juste. Parfois, nous avons un peu vite fait d'avoir des expressions toutes faites dans nos milieux. Nous disons que, par exemple, Dieu se met en colère contre le péché, mais pas contre le pécheur. Comme si nous, en tant que parents, nous nous mettions en colère contre la bêtise de notre enfant, mais pas contre lui. Il ne nous est nullement dit dans la Bible que Dieu est en colère contre le péché, mais pas contre le pécheur. En revanche, il nous est dit massivement que Dieu est en colère contre le pécheur. Et au jour du jugement, Dieu ne va pas juger le péché, il va juger les pécheurs. Et l'enfer ne sera pas rempli de péché, mais de pécheurs. Dieu est en colère contre chacun d'entre nous parce que nous sommes pécheurs. Nous ne pouvons pas rejeter cette vérité biblique parce qu'elle nous dérange. Alors pourquoi Paul fait ce portrait si dramatique ? Pour mettre en valeur quelque chose de merveilleux. Mais Dieu, voici ce que nous sommes. Nous sommes morts à ses yeux. Nous sommes esclaves du monde de Satan et de notre chair et nous méritons sa colère. Mais Dieu, et lisons ce texte qui suit, les versets suivants. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Mais Dieu, ce « mais » de ce verset 5 est un des plus beaux mots de la Bible, un des mots qui renferme le plus d'espérance. C'est le « mais » qui change tout. Mais Dieu, par amour, dans sa miséricorde, veut nous faire grâce. Par quoi nous sommes sauvés ? Par Dieu et par un Dieu qui fait grâce. Ce « mais », entourez-le dans votre Bible. Mettez-le en grâce, mettez du stabilo dessus. Ce « mais », il est trop important, puisqu'il nous ouvre la porte et il répond à cette question, comment est-ce que Dieu nous a sauvés ? Par quoi est-ce qu'il nous a sauvés ? Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, il nous a sauvés. Ce « mais » introduit la grâce qu'on ne mérite pas. Sa justice et sa colère nous condamnent à la mort et font que nous méritons simplement sa colère, mais dans sa bonté, dans son amour, Dieu nous donne sa grâce. Et comment est-ce qu'il a concilié les deux ? Paul nous le dit, en Jésus-Christ. C'est en Christ que Dieu accomplit son plan pour nous offrir la grâce. Et Paul dit que nous sommes en Jésus-Christ, que c'est en Christ que Dieu nous a associés à Christ. Alors que dans notre condition naturelle, nous sommes associés à notre identité rejetée par Dieu, que nous avons hérité en Adam, notre humanité ennemie de Dieu, en Christ, Dieu nous associe pleinement à lui et nous sauve par grâce. Christ est mort pour nous libérer de la mort. Il s'est livré comme un esclave pour nous affranchir de l'esclavage. Il a subi la colère à notre place. Et il est venu triompher du monde pour nous permettre d'en triompher. Il est venu triompher de Satan pour nous permettre de pouvoir résister à Satan. Et c'est pour ça que Paul dit aussi plus loin dans l'Épître aux Éphésiens, « Résistez à Satan, il fuira loin de vous. » C'est le troc scandaleux de la croix. Christ prend notre humanité pécheresse, notre condition, et il nous donne la résurrection. Il nous donne la vie, il nous donne le pardon, il nous fait grâce. Ce que dit Paul, c'est que nous devons bien comprendre qui nous étions pour pouvoir apprécier pleinement qui nous sommes devenus. Paul veut qu'on comprenne notre état sans Dieu pour comprendre comment Dieu a lié notre destin, notre vie à Jésus-Christ. Par nature, on mérite simplement une place sur le banc des accusés, un cercueil, le rejet de Dieu et sa colère, mais par grâce, il nous met avec lui dans les lieux célestes. Alors avant de passer au point suivant, quelques applications pratiques. Je crois que ce texte nous invite à nous rappeler que si nous minimisons la gravité des conséquences du péché dans nos vies, dans le monde qui nous entoure, nous allons aussi minimiser la gloire de la grâce de Dieu, l'importance de l'œuvre de la croix. Et à chaque fois que la croix devient moins importante, moins centrale dans notre vie, à mon avis, c'est qu'il y a une négligence dans notre vie par rapport à ce que représente la réalité du péché, de cette condition de laquelle Dieu nous a délivrés. Nous oublions l'histoire, nous oublions qui nous étions. Et si Paul à des chrétiens veut leur rappeler qui ils étaient avant, c'est parce que c'est important pour vivre maintenant. Dieu révèle qui il est au travers de notre histoire aussi. La grâce, Paul rappelle, nous sommes sauvés par grâce et non par les œuvres de l'homme. La grâce nous rappelle que notre salut, c'est le choix de Dieu. Nous ne le méritons pas. Et la foi ici, Paul nous le dit que c'est croire que c'est par le sacrifice de Jésus que nous sommes sauvés seulement. Par le sacrifice seul de Christ, nous sommes sauvés. Aucune œuvre est à rajouter. Nous ne pouvons en rajouter aucune qui puisse satisfaire la justice de Dieu. Et Paul enfonce le clou. Il dit même que la foi est un don de Dieu. Dieu a opéré le miracle pour que nous puissions nous saisir de ce salut offert par Christ. Puisque mort, nous ne pouvons pas appeler à la vie. Puisque esclave, nous ne pouvons pas appeler à la libération. Puisque ennemi, nous ne pouvons pas non plus appeler, prétendre à la justice devant Dieu. Paul dit que Dieu, dans sa grâce, nous a sauvés et qu'il nous a donné la foi pour pouvoir répondre à cet appel de la croix. Dieu nous ordonne dans sa volonté de croire en lui, et nous qui croyons, nous pouvons le remercier de tout cœur de nous avoir donné la foi. Et je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très important pour tous ceux et celles qui parmi nous sont encore en cheminement et se posent des questions. Est-ce que Dieu vraiment veut me sauver ? Est-ce que vraiment il m'appelle ? Ou est-ce que c'est moi, finalement, qui suis en train de me construire quelque chose pour essayer d'atteindre Dieu. Par ce texte, Paul nous rappelle que la foi est le don de Dieu. Alors si nous croyons en Dieu, si nous présupposons que Christ est bel et bien mort pour nous, c'est que Dieu est déjà à l'œuvre dans notre cœur pour nous révéler qui il est. C'est qu'il nous appelle déjà à nous repentir, à nous tourner vers lui et à nous abandonner à la seigneurie de Christ. Dieu est déjà à l'œuvre en réalité, alors que nous nous posons la question, est-ce que Dieu m'aime ? Est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'il est mort aussi pour moi ? Dieu est déjà à l'œuvre et en train de nous appeler quand nous commençons à nous poser ces questions. De quoi Dieu m'a-t-il sauvé ? De la mort, de l'esclavage et de la colère. Par quoi m'a-t-il sauvé ? Par la grâce. Ah oui, pardon, un petit peu en retard. Par amour, par grâce et par le don de la foi. Enfin, pourquoi Dieu m'a-t-il sauvé ? Et la suite de notre texte nous répond à cette question. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de Dieu, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Pourquoi Dieu m'a sauvé ? Pour vivre ce qu'il a prévu pour moi. Je me souviens du jour de ma conversion. C'était le 23 mars 2007. Je me souviens d'un autre jour qui, pour moi, a eu l'effet d'un tsunami dans ma vie. C'est trois jours plus tard, soit le 26 mars 2007. Je me souviens que je commençais à découvrir quel était ce salut merveilleux. Je commençais à comprendre aussi ce salut par la foi seule, et que finalement Dieu était l'auteur seul de mon salut, qu'il m'avait sauvé par grâce seulement. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu as choisi de me sauver aujourd'hui ? Finalement, j'aurais pu être comme ce brigand sur la croix qui a été sauvé in extremis. Pourquoi est-ce que tu n'as pas attendu la fin de ma vie pour me sauver ? Pourquoi est-ce que tu m'as sauvé aujourd'hui ? Et je me souviens que cette réflexion-là, cette prière-là, a été pour moi aussi importante que simplement celle d'accepter Christ dans ma vie, de reconnaître sa seigneurie. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a conduit dans une réflexion qui demeure toujours à ce jour et dans une conviction qui nous est révélée par les Écritures, c'est que Dieu ne nous a pas sauvés simplement pour nous pardonner, pour effacer l'ardoise, non. Il nous a sauvés pour que nos vies lui appartiennent et qu'elles servent ses desseins. Dieu est l'auteur de mon salut et il est l'auteur de ma nouvelle vie. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage et Paul dit que cet ouvrage-là que nous sommes, que Dieu a créé, cette nouvelle personne que nous sommes, eh bien, elle tire son origine de Jésus-Christ. Nous avons été créés en lui. C'est un chef-d'œuvre qu'il continue de façonner toute notre vie pour nous rendre conformes à son objectif. Et son objectif, comme il nous a créés en Jésus-Christ, est de nous rendre conformes à Jésus-Christ. C'est magnifique. Dieu est l'auteur de notre salut et il est l'auteur de cette nouvelle vie à laquelle il nous appelle de vivre. Nous ne sommes pas sauvés pour des œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres, mais nous sommes sauvés pour des œuvres, pour enfin rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Dieu est à l'initiative de mon salut et il est à l'initiative de la vie chrétienne, de la transformation de mon identité, de la transformation de ma mise en conformité à l'image de Jésus-Christ. Il est à l'initiative de tout. Comment s'y prend-il ? Par toute chose, Dieu utilise toutes choses. Ce n'est pas simplement qu'en nous offrant de belles opportunités, en nous demandant de tout quitter, ou en nous demandant de faire des choses improbables, incroyables. Non. Dieu utilise absolument toutes choses. Le quotidien, les épreuves, les joies, les opportunités, toutes choses. Dieu les utilise pour nous transformer à l'image de Christ. Mon quotidien, cette journée, Dieu veut l'utiliser pour me transformer à l'image de son Fils. Et ce qui est extraordinaire, c'est de savoir que c'est Dieu qui prépare d'avance chacune des journées qu'il me reste à vivre pour que je puisse le servir, vivre la vie à laquelle il m'appelle. Je n'ai pas à deviner, je n'ai pas à créer moi-même ma vie. Ou encore une fois, le monde nous dit que nous devons nous créer notre avenir, nous devons nous créer nos opportunités, nous devons nous créer notre succès, nos réussites. Dieu nous dit qu'il a tout créé et qu'il a créé des œuvres bonnes afin que nous rentrions dedans. Et je crois que quand on comprend que nous n'avons pas simplement été sauvés pour être pardonnés de notre péché, mais pour rentrer dans une vie nouvelle à laquelle il nous appelle, c'est comme passer du film noir et blanc en muet au cinéma Dolby Surround 3D. Quoi. Ça transforme complètement notre vision de la réalité de la vie à laquelle Dieu nous appelle. Ça produit en nous une réorientation complète de toute chose. La vie prend son sens quand on réalise qu'il met tout en place pour que notre vie soit à son service. Et face à ça, je crois que nous sommes confrontés à deux grands types de problèmes. Il y en aurait bien d'autres, mais je vais simplement en souligner deux. Le premier, c'est l'attentisme. C'est essayer de vivre d'une façon négative la vie chrétienne. Essayer de vivre avec comme objectif de ne pas pécher. Objectif ultime, ne pas pécher. Alors on se lève le matin et on serre les dents, on essaye de tenir toute la journée en essayant de ne pas trop pécher, et en fin de journée, on arrive, on se dit « Ouf, ça va, finalement, quand je fais les comptes, c'est pas trop mal, et ce soir, j'aurai pas besoin de me repentir pendant trois quarts d'heure, ou je me sens pas trop mal dans ma peau, ma conscience me travaille pas trop. Ouh. Et demain, bah, c'est reparti. Après-demain encore. Après-demain encore. Et face aux tentations qui sont là, aux péchés récurrents, on se dit « Mais j'ai aucun espoir. » Si vivre la vie chrétienne à laquelle Dieu nous appelle, c'est simplement ne pas pécher, nous nous privons de toute la dimension positive à laquelle Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Le péché, c'est une anomalie. Ce n'est pas la chose normale à laquelle nous devons être confrontés. Le péché, c'est une anomalie. Et pour ça, nous avons la repentance. Dieu nous appelle à nous repentir, nous mettre au pied de la croix. Pourquoi ? Pour pouvoir repartir et continuer de le servir, de vivre pour lui. Et heureusement que nous avons la croix pour ça. Heureusement que Dieu nous fait don de la repentance pour ça, pour pouvoir vivre. Mais le but de la vie n'est pas d'être focalisé sur le péché, c'est d'être focalisé sur Dieu. Et c'est précisément souvent parce que nous nous décentrons de Dieu que le péché prend toute sa place. Deuxième problématique, c'est le conformisme. On regarde à droite, à gauche. On se dit, bon, j'ai l'impression d'être à peu près conforme à ce qui se passe autour de moi, et ça devient notre étalonnage. On se dit, bon, ben voilà, les gens autour de moi, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon église, voilà, peut-être qu'on accepte ces choses-là, ou le monde autour de moi, voilà, ces choses-là finalement sont plus ou moins tolérées, donc c'est peut-être pas trop mal, ou Dieu se contente de ça, et puis moi je continue comme ça. Au lieu de nous conformer à ce que Dieu attend de notre vie. Pas regarder à ce qui se passe autour de nous, mais regarder à sa parole, à la vérité qu'il nous révèle. Regarder à ce que lui attend de nous dans cette vie nouvelle qu'il nous donne. Et surtout pas niveler par le bas. Et je crois que ces conceptions de la vie chrétienne découlent d'une tendance qu'on a à dissocier la conversion, le moment où on se tourne vers Dieu, de la sanctification, c'est-à-dire toute cette œuvre que produit Dieu en nous, ce salut qu'il produit en nous au cours de notre vie de transformation. On a trop dissocié les choses. Et on croit que se convertir, c'est dire à Dieu oui un jour, et puis finalement, tout le reste de notre vie, on lui dit non. Alors que se tourner vers Dieu, c'est un oui de tous les jours. C'est une vie active pour lui, une vie que nous lui consacrons. Un chrétien qui vit sa vie pour lui en gâche chacune de ses journées. Alors, avant de conclure, quelques implications concrètes. Premièrement, comment ne pas entrer dans les œuvres de Dieu ? Au lieu de se poser la question comment entrer, je la fais par la négative, comment ne pas entrer dans les œuvres de Dieu ? Je crois que Paul rappelle la condition passée des chrétiens pour leur rappeler qu'ils ne doivent pas vivre comme des esclaves, comme s'ils étaient esclaves. Ne pas vivre comme s'ils étaient soumis à Satan, alors qu'ils ont été délivrés de son pouvoir, de son autorité dans leur vie. À ne pas vivre comme s'ils étaient morts spirituellement et étrangers de Dieu, mais à vivre cette intimité avec lui. En ne mettant pas en pratique ce que je sais de mon salut, c'est sûr que je ne vais pas rentrer dans les œuvres de Dieu. Mais je crois que tout n'est pas fichu. Au travers de ce texte-là, Paul rappelle aussi à nous tous, Dieu nous rappelle à nous tous, qu'il n'y a pas de voie de garage, que sa grâce opère dans nos vies aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas nous dire, ça y est, tout est fichu, parce que nous n'avons rien à construire. Nous devons rentrer dans les œuvres que lui a préparées d'avance. Ma vie future ne dépend pas de ma vie passée. Elle dépend de Dieu. Elle va dépendre de mon obéissance aujourd'hui. D'aujourd'hui, mon désir de revenir à lui, de me repentir et de marcher dans une nouvelle vie, une vie d'obéissance. Et c'est la grâce, encore une fois, qui agit dans nos vies aujourd'hui. Pas de voie de garage. Nous pouvons aujourd'hui rentrer dans ses œuvres. Et je crois que la prière que Dieu attend de nous chaque jour, c'est dire, Seigneur, aujourd'hui, montre-moi ce que tu attends de moi. Montre-moi dans quel domaine je dois t'obéir. Révèle-moi ce que tu veux pour moi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je n'ai pas à deviner sa volonté. Non, je dois la calquer sur ce qu'il me révèle dans sa parole. Et donc m'approprier toujours plus sa parole, nourrir mon intimité avec lui, cette relation qui maintenant est vivante par le Saint-Esprit, la nourrir par mes temps de silence devant lui. Comment rentrer dans ses œuvres ? En étant prêt à obéir. Au lieu peut-être d'essayer de vivre en cherchant à ne pas désobéir, pourquoi pas voir les choses à l'inverse ? Essayer de vivre aujourd'hui en cherchant à lui obéir activement dans ma vie. Et pour pouvoir lui obéir, je l'ai déjà dit, il faut écouter et chercher non pas à obéir demain, c'est peut-être bête ce que je dis, mais chercher à obéir aujourd'hui. Et souvent, on se préoccupe des tentations, on se préoccupe du péché parce qu'on a peur de ne pas tenir. Mais Dieu ne nous demande pas de tenir à long terme. Il nous demande de tenir maintenant, aujourd'hui, de lui faire confiance maintenant, aujourd'hui. Et je crois que dans sa divine pédagogie, il souhaite ça pour nous conduire à la dépendance, à reconnaître notre besoin chaque jour de lui et nourrir cette relation avec lui. Enfin, comment rentrer dans ses bonnes œuvres ? Je crois que l'Église doit servir à ça. Elle est un moyen de grâce qui doit nous permettre à nous tous de vivre, de rentrer chacun personnellement dans les œuvres que Dieu nous a données. Par le service, certes, par la mission, certes, mais aussi par l'entraide que nous pouvons nous apporter. Et je sais que moi, par exemple, j'ai mon groupe de croissance avec John. Et nous nous retrouvons chaque semaine et nous avons des défis que nous nous lançons, où nous nous rendons redevables dans des domaines où pour nous c'est important, où nous savons que Dieu nous a montré que nous avions besoin de plus d'obéissance. Et donc j'ai besoin de lui, puisqu'il m'aide à être obéissant, à rentrer dans les œuvres que Dieu a prévues d'avance pour moi et de manière réciproque. J'espère. Pour conclure, je vous rappelle de quoi Dieu m'a sauvé de la mort, de l'esclavage et de la colère. Par quoi est-ce qu'il m'a sauvé ? Par grâce et par le don de la foi. Pourquoi est-ce qu'il m'a sauvé ? Pour vivre ce qu'il a prévu d'avance pour moi, pour rentrer dans ses œuvres. Et c'est la perspective merveilleuse que nous avons ici-bas. Mon Dieu, je te remercie pour ta parole. Merci pour ce que tu nous rappelles en elle. Merci parce que nous étions des cas désespérés, chacun d'entre nous. Aucun d'entre nous pourrait dire devant toi qu'il a mérité d'être sauvé. Aucun devant toi ne pourrait dire que finalement c'est quelque chose de normal, de bien mérité. Seigneur, merci pour ta grâce que tu as manifestée à la croix. Merci parce que tu accomplis ce que nous ne pouvons pas faire, nous sauver. Merci pour être cet auteur glorieux de notre salut. Merci parce que ce salut entraîne une transformation dans notre vie. Il ne se limite pas simplement à nous pardonner, mais par lui, tu nous transformes pour nous permettre de rentrer dans les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour nous. Et Seigneur, ma prière ce matin est que tu nous aides à identifier dans notre vie, là où il y a de la désobéissance, là où, dans les domaines dans lesquels, au lieu de rentrer dans tes œuvres, nous nous comportons comme des esclaves. Et que tu nous rendes capables, par ta grâce, par la puissance de ton esprit qui vit en nous, de renoncer à ces œuvres mortes et de nous tourner vers toi. Que par ta grâce, tu crées en nous le vouloir et le faire. Que par ta grâce, ce matin, tu parles à nos cœurs et que tu nous révèles notre besoin de retourner vers toi et ton désir de nous voir revenir à toi pour rentrer dans les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance. Merci Seigneur, parce que c'est seulement parce que nous savons que tu es absolument souverain sur notre vie que nous pouvons trouver le courage de lutter contre le péché, l'audace de rentrer dans la vie à laquelle tu nous appelles et le désir de vivre pour toi. Notre vie trouve sa source, son fondement en toi, et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ça, puisque nous ne méritons rien. Au nom du Seigneur Jésus, amen.